Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Comment ça va, Maxime Dupuis ?
Bah écoute, ça va, Martin. Alors, Martin ne rigole pas parce qu'il a quelque chose de drôle à dire,
non.
Mais parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire pendant cette grosse demi-heure d'émission, et notamment lors de cette intro qui, parfois intéressante, parfois, j'allais dire, intelligente, rarement.
Rarement.
Mais il y a des trucs, et c'est vrai que c'est un vendredi un peu en manque d'inspi là, sur l'intro. On a essayé de trouver des trucs juste avant, Black Friday,
Non, mais moi, le Black Friday... Moi, si vous voulez parler du Black Friday, moi, c'est le truc qui me rend. Moi, c'est le truc qui me crispe le plus, je pense, le Black Friday.
Les gens achètent tout et n'importe quoi. Dans ta vie, alors.
Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai une vie plutôt équilibrée, avec une femme aimante et des enfants sublimes. Donc, mais le Black Friday, ça me tend. Moi, les gens qui achètent tout et n'importe quoi juste pour acheter.
J'aurais pu dire avec une femme sublime et des enfants aimants.
Tu vois, j'ai dit le contraire.
Alors, Black Friday, pour revenir au
Est-ce que t'as acheté des trucs pour le Black Friday?
Non, mais...
T'as déjà tout, Maxime. Il a déjà tout, il a pas besoin. Maxime, c'est le Black Year. Alors, toute l'année, il achète,
Maxime.
Non,
pas du tout. Moi, je déteste... Alors, il y a un truc que je déteste, c'est le gâchis et acheter quelque chose d'inutile. Ça, je ne peux pas.
Mais t'achètes beaucoup quand même, Maxime.
Bon, après, non,
mais parce que t'as un niveau de vie qui te permet de le faire,
pas.
Maxime.
Alors, qu'est-ce que j'ai acheté récemment?
Bah, je sais pas.
Non, j'achète peu de choses, mais je déteste acheter quelque chose qui ne sert pas. Alors, pour revenir au Black Friday et à Thanksgiving, j'ai passé une fois Thanksgiving et Black Friday aux États-Unis. C'était vraiment une période super sympa. Vraiment. Ouais. Mais je ne comprends pas l'export, pour le coup, en France. Parce que, autant à la rigueur, Halloween, ça fait un peu une fête pour les enfants, ils se déguisent.
Voilà, moi,
depuis
que j'ai des enfants, je comprends à peu près. Voilà.
Mais le Black Friday, je comprends très bien malheureusement le Black Friday. Et j'attends
écoute,
bientôt,
Bruno Le Maire, tu comprendras bien.
J'attends bientôt le Thanksgiving à la française. On va filer une dinde pour une raison historique qui n'aura pas de sens en France. Mais bon, voilà. Mais après, Black Friday, pour le pouvoir d'achat, ça peut être bien pour acheter des trucs tu n'achèterais pas à un autre moment.
Oui, ou que tu n'achèterais pas du tout. C'est ça qui m'énerve.
Non, mais si tu n'achètes pas du tout, tu n'achètes pas.
Voilà exactement. Exactement. Mais après, quand tu as un ministre de l'économie qui te dit non, mais il faut soutenir, machin, il faut y aller, il faut consommer. On y arrivera
ça te dérange.
Ouais, on n'y arrivera jamais.
Pourtant, je crois savoir que tu étais plutôt de ce bord-là.
Quel bord? Quel bord?
Là, je pensais que tu étais en accord avec le ministre.
Bruno Le Maire?
Ouais.
Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, je suis pas de ce bord-là. Mais moi, j'ai pas de bord, Maxime. Moi, je me fais tout seul, je me fais confiance qu'à moi-même. Et à limite, de temps en temps à toi, mais c'est quand même très très rare.
Ouais, pas trop quand même.
Non, pas trop quand même. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va démarrer cette émission en parlant de l'Olympique Lyonnais qui est en train de tout changer. Alors là, c'est Black Friday aussi à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que...
Plus souvent le Black Saturday, le Black Sunday aussi.
Ouais, exactement. On change tout, on a tout changé pendant la trêve. Alors, tout le monde n'est pas encore arrivé, on vous fera un petit point sur l'organigramme. Et on se demandera si... Et c'est l'élan qui va permettre à Lyon de se sortir de la mouise et de enfin lancer sa saison.
On parlera ensuite de la Ligue 1 et du niveau du championnat. Vous avez vu que la trêve internationale a été marquée par une mini polémique par Thierry Henry qui a un peu remis en cause le championnat. Alors ça n'a pas été très bien pris par certains, notamment par Michel Derzakarian. On va se poser la question suivante, est-ce que la L1 est beaucoup plus nulle que l'année dernière?
Et ensuite on terminera avec l'épidémie, l'avalanche de blessures qui est en train de flinguer le football européen. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui se sont fait les croisés depuis le début de saison. Le dernier en date, c'est Gavi, pendant la trêve internationale. Kamavinga aussi, qui s'est blessé assez gravement. Deux ou trois mois d'absence. Vinicius, on se demandera à qui la faute. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ça? Et est-ce qu'on a des explications à cette avalanche de pépins?
On va démarrer et on va déjà vous dire que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Acast, Google, Deezer, Spotify. Et évidemment, les meilleurs extraits de l'émission sont sur le site eurosport.fr tout au long du week-end et même après. On va démarrer avec l'Olympique Lyonnais qui a annoncé vendredi dernier avoir un nouveau directeur général en la personne de Laurent Prudhomme. L'Olympique Lyonnais qui est aussi en train de revoir tout son organigramme, sa reconstruction on va dire à la tête du club. La question elle est simple Martin, alors évidemment on va un peu décrypter cet organigramme, mais est-ce que Textor va donner un nouvel élan à cet OL et est-ce que cet nouvel organigramme peut sauver l'Olympique Lyonnais?
Alors moi que ce soit Laurent Prudhomme... c'est quoi ses fonctions, directeur général?
Ouais. Alors déjà, on va dire une chose, on le connaît, Laurent Prudhomme.
Oui, on le connaît.
C'est un ancien d'Eurosport, ouais. Très bon pro.
Voilà. Voilà, exactement. Mais que ce soit Laurent Prudhomme, Juninho, conseiller du président, c'est l'équipe qui l'annonce dans les semaines à venir. On a parlé de David Friot aussi, directeur sportif. Moi, tout cet organigramme, j'ai plutôt... voilà, je suis plutôt séduit par tous les profils. Je trouve que... Voilà, c'est plutôt des gens dont j'estime qu'ils pourraient faire du bon boulot à l'Olympique Lyonnais, mais il y a deux problèmes. C'est que les deux personnes les plus importantes à l'Olympique Lyonnais, et notamment dans le futur tout proche de ce qui nous intéresse, eh ben, c'est deux personnes qui ne conviennent pas au casting. Les deux plus importantes, c'est qui? C'est celui qui donne le cap, le big boss, donc John Textor, et celui qui influe le plus sur les résultats de l'équipe, à savoir l'entraîneur. Et pour moi... que ce soit tout en haut de l'échelle ou tout en bas, si on estime que l'entraîneur est tout en bas de l'échelle puisqu'il n'a personne en dessous de lui si ce n'est ses joueurs, et ben c'est là où ça ne va pas. C'est-à-dire que Textor, j'en ai déjà beaucoup parlé ici, mais on a l'impression qu'il ne voit rien venir. On a l'impression que pour lui, Lyon n'est pas en danger et que de toute façon, ils auront plein de fric cet hiver, donc tout va bien se passer. Je crois que Lyon est en danger et je ne suis pas sûr que Lyon ait beaucoup de fric cet hiver, ou en tout cas, il faudrait obtenir l'aval de la DNCG, ce qui n'est pas encore le cas. Le fantasme Juninho, il faut pas croire que ça va être comme l'ère 1, c'est-à-dire qu'il va arriver, il va proposer Guimarães, Paqueta, que tout va bien se passer, qu'il va être là au quotidien. En fait, Juninho, ça va être le conseiller de Textor, c'est-à-dire qu'il va, même pas piloter, il va naviguer dans la galaxie Textor, c'est-à-dire à la fois à Botafogo, à Lyon, il sera à Lyon je crois une fois par mois si j'ai bien compris. Ce sera pas Bernard Lacombe qui était là tous les jours à parler aux attaquants, à vraiment irriguer Jean-Michel Aulas de conseils et d'informations. Donc Juninho, voilà, j'attends de voir son poste et surtout je ne suis pas sûr que ce soit ces gens-là qui vont sortir Lyon de l'ornière. Moi, je pense que ce qui permettra à Lyon d'aller mieux, c'est que Textor lâche le gouvernail et aille tout en haut dans la vigie pour avoir un plan clair de ce que sera le futur Lyon. Le problème, c'est que je crois qu'il ne veut pas trop lâcher le gouvernail. Même s'il s'entoure beaucoup, ça pourrait être un premier signe d'évolution et qui va dans le bon sens. Mais le problème, c'est que Textor, je ne suis pas sûr qu'il veuille lâcher ses prérogatives et je ne suis pas sûr qu'il veuille lâcher le cœur du réacteur, c'est-à-dire le mercato et le quotidien de l'OL. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème.
Non, mais comme tu l'as dit, il ne veut pas lâcher parce que justement, j'ai pris le communiqué de la nomination de Laurent Prudhomme à la direction générale de l'OL.
T'as raison, oui.
Le communiqué qui explique « Laurent sera responsable de la direction et de la gestion de toutes les opérations quotidiennes de l'Olympique Lyonnais, relevant directement de moi. » Et là, quand on cite de moi, voilà. Même si les décisions finales sur les questions de football me reviendront grâce à contribution active, ça revient toujours à lui. Donc lui, il n'a pas envie de lâcher le gouvernail, comme tu dis. Après, je l'ai dit, Laurent Prudhomme, on le connaît, c'est un pro, que des bonnes choses à dire dessus. Et globalement, si vous regardez l'organigramme à venir, Mathieu Louis-Jean, tout ça, un par un, ça ressemble à un bon attelage. Maintenant, 1+1+1+1, ça ne fait pas toujours la somme des individualités. Et de voir comment ça fonctionnera, moi, je suis plus partagé sur Juninho parce que je ne sais pas trop ce que c'est ce rôle, en fait. C'est toujours pareil, c'est des joueurs, c'est des anciens joueurs qui, à la fin de leur carrière, ont envie d'être dans le football, mais finalement, n'ont pas tellement, ou envie d'être sur le banc, mais ne sont pas sûrs. Directeur sportif, ce n'est pas ça, donc on trouve un truc un peu à côté. Et généralement, quand on est sur un poste un peu flou, c'est qu'il y a un loup et qu'on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Donc ça, c'est autre chose, on verra. Mais après, ce qu'il y a, c'est comme tu l'as dit, alors, c'est le problème Textor aussi, c'est que voilà, il va vouloir absolument mettre les mains dedans. Sauf que lui, il se voit aussi patron à Botafogo. Il y a trop de clubs. À un moment, il faut choisir. Et c'est aussi le défaut latent de la multipropriété. Au pire, vous êtes propriétaire. Vous prenez du recul, un peu comme McCourt, voilà.
Ce que j'allais dire.
Même si c'est pas parfait.
Oui, mais
et vous déléguez à quelqu'un. Vous déléguez à Laurent Prudhomme, qui va être le responsable, parce que Laurent Prudhomme, c'est lui aussi qui va devoir justifier des décisions de football. Des décisions de football qui lui reviendront en partie, mais qui seront validées par quelqu'un au-dessus de lui. Donc c'est un exercice aussi particulier sur le papier. Et après, moi, tu l'as dit, la DNCG. En gros, peut-être qu'il y aura un nouvel élan avec cet organigramme, mais le problème, c'est que là, comme tu l'as dit, il faut se rendre compte que là, il y a urgence. Il n'y a pas le temps de dire on va faire comme ça. Non, non, non. C'est maintenant. Et le problème, il est où ? Il est sur le terrain. Le fameux mercato, il faut quand même passer devant la DNCG le 28 novembre. Si ça ne passe pas, ce qui n'est pas impossible.
Et il y a l'affaire Nouama aussi. Il y a l'affaire Nouama dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas l'issue. Et l'une d'entre elles pourrait être une interdiction de recrutement, tout voilà. de même. Donc voilà, il faut surveiller tout ça.
Et moi, le problème que je vois semaine après semaine et qui ne peut pas être réglé avant le mercato, il est sur le terrain, tout simplement. Moi, je le répète, hein. Nouama, tu l'en as parlé. Baldé, c'est bien gentil. Jeffinho, c'est bien gentil. Cette équipe a le niveau d'une bas première partie de tableau, pas plus haut. Faut déjà bon, il ne rêve plus au podium, mais encore une fois, c'est pas une équipe qui regorge de qualités individuelles. Mm-hmm. Donc moi le problème il est là. Cet organigramme là, dans un monde idéal, il aurait fallu le mettre en place au mois de mai,
c'est ça.
Ou au mois d'avril.
Exactement.
Voilà. On savait très bien qu'Olas ça ne durerait pas 3 ans. On se doutait sûrement pas que ça exploserait comme ça le 1er ou le 8 mai, je ne sais plus, mais en tout cas vers la fin de saison. Là, oui, c'est bien, ça ressemble à quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ça qui sauvera la saison de l'OL.
En fait, Lyon, il y a eu un problème de timing. Je rappelle quand même qu'il arrivait il y a un an, John Textor. C'était au mois de décembre, je crois, l'année dernière.
Déjà, ça a pris trop de temps à l'époque.
Ouais, exactement. Déjà, ça a pris trop de temps. Ensuite, il a fait miroiter à Jean-Michel Aulas des choses. Et Jean-Michel Aulas s'est peut-être accroché, mais voilà, on a trop laissé traîner ce qui s'est passé avec Jean-Michel Aulas, qui en plus après a savonné la planche. Je pense que la DNCG, s'il y a eu ces sanctions, je pense que Jean-Michel Aulas n'est pas tout à fait étranger à ça. Et donc Jean-Michel Aulas n'a pas fait place nette. Et donc ça a duré trop longtemps. Finalement, il y a eu un an de perdu dans l'ère 1 de John Textor. Et il met en place le board qu'il aurait voulu mettre peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire un an trop tard. Il aurait dû arriver et bah voilà, ruer dans les brancards tout de suite, faire des coupes nettes, les Ponceaux, les Aulas, les Chéroux, bah tout de suite les. Donc ça a pris du retard. Et du coup, moi je ne peux pas dissocier ce qui se passe sur la pelouse de ce qui se passe dans les coulisses ou dans les hautes sphères du club. Et je pense que c'est une conséquence directe de tout ce qui s'est passé, de ce pourrissement un petit peu de d'hommes dont on ne sait pas trop ce qu'ils font là, qui sont sur le départ mais qui sont encore là, qui occupent des postes mais qui sont un peu vidés de leur sens. Et finalement sur la pousse, ça c'est, alors John Textor a réagi trop tard, c'est une évidence. Est-ce que ça suffira pour sauver une saison? Les hommes en place et notamment le directeur sportif arrivent une semaine avant l'ouverture du mercato d'hiver. Je ne peux pas croire qu'il ait déjà une idée absolument nette et qu'il va être efficace tout de suite. Sans compter, on l'a dit tout à l'heure, qu'on ne sait pas si la DNCG va donner son feu vert. Donc, c'est là aussi, c'est un pari d'estimer que le mercato d'hiver va sauver l'OL. Parce qu'on ne va pas changer 11 joueurs non plus d'un coup. Alors oui, ils ont des moyens, s'ils en ont, qui seront plus élevés que ceux de Clermont ou Metz, les candidats au maintien. Mais malgré tout, je pense que cette refonte arrive tard, très tard, qu'elle aurait dû arriver il y a un an, ou au pire, il y a 6 mois cet été.
Oui, ça serait si les mercato d'hiver sauvaient des équipes. Alors évidemment, il y a des bons coups de temps en temps.
Ça arrivait à Saint-Etienne il y a 3 ans.
Mais... Ouais, et à un moment, il fut une époque où ils changeaient. Il y a eu le PSG et l'OM qui avaient fait ça au début du 21e siècle. Quand on change l'équipe en général, déjà, il faut retrouver les automatismes, enfin les trouver du moins. Et généralement, vous ne prenez pas des joueurs d'une qualité folle, parce qu'on le rappelle, le mercato d'hiver n'est pas destiné aux grands joueurs.
Oui, donc, en plus, tu as raison. T'as raison. Tu vas avoir des sparadraps,
du bricolage qui vient de Botafogo.
Ou des gens dont on veut se débarrasser. Et voilà.
Et pour la petite anecdote, quand vous arrivez de Botafogo ou du Brésil, Dante, quand il est arrivé à Lille, jeune, et il n'a pas compris ce qui se passait au niveau de la température. Non, mais c'est bête ce que je dis, mais ça fait aussi partie de tout ça. Il faut aussi prendre tout ça en compte. Et voilà, on a l'impression que là, il construit enfin la tête. Ça marchera, ça ne marchera pas, on ne sait pas. Ça, on verra. Mais le problème, c'est que le corps, là, il est pour le coup très, très malade. Et c'est ça qu'il faut soigner très vite. Est-ce que ça fonctionnera? Je ne sais pas, mais c'est une opération. Mais quoi qu'il arrive, c'est une saison perdue pour l'OL.
Oui.
Au mieux, ils sauvent. Au pire, ils descendent.
Moi, j'aimerais une chose aussi, c'est qu'on définisse quel ADN de cette OL-là. C'est-à-dire que c'est une équipe, c'est un club dont l'ADN était, et c'est ce qui faisait sa force, à mon avis, était tout de suite identifiable. On savait ce que c'était que l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est un club de jeunes encore? C'est un club qui forme encore beaucoup de jeunes, des très bons jeunes. Est-ce qu'on va s'en servir? Est-ce qu'on va les dégager comme Barcola ou Loukeba cet été? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est devenu l'Olympique Lyonnais? Moi, je pense qu'aussi, il faudrait clarifier cette position-là. Une dernière chose, et je pense que ça aussi c'est un vrai problème du club, c'est Fabio Grosso. Moi je suis absolument pas fan de ce qu'il fait depuis le début. Alors il y a eu une victoire contre Rennes, effectivement, mais je ne sais pas ce qu'il fait non plus. J'ai l'impression que comme l'OEV, il navigue beaucoup à vue, que c'est fouillis, c'est du gribouillage. Et j'attends de la clarté. Il y a une clarté peut-être aujourd'hui, même si ça demande encore quelques clarifications au niveau de l'organigramme. J'en attends dans le jeu, j'en attends sur le banc et j'en attends surtout dans la direction que prend l'OL.
Tu lui en veux depuis le 9 juillet 2006, c'est ça?
Moi, j'ai pas digéré.
C'est tir au but. C'est vrai que c'est marrant que maintenant ça passe crème et personne. J'ai vu des joueurs français qui se faisaient siffler pour avoir fait des conneries en équipe de France. Lui, on lui doit une défaite.
Il a juste mis son tir au but. Il a pas fait des doigts à tout le monde et il a pas craché.
Oui, cela dit, des finales de Coupe du Monde.
Il a fait son travail.
Oui, c'est vrai que j'ai vu des finales de Coupe du Monde perdues par la France où les adversaires n'étaient pas aussi dignes.
C'est vrai.
C'est vrai.
Bon. Maxime, le petit tac là.
On a parlé de l'OL, oui. On va parler de la Ligue 1 et du niveau du championnat actuel et notamment du faible nombre de buts. Il y avait beaucoup d'excitation sur la saison précédente avec une espèce de renouveau des techniciens, du jeu, une espèce de flamboyance dans le jeu. Martin, le début de saison, c'est pas exactement le même, mais est-ce qu'on peut dire que la Ligue 1 est devenue complètement nulle?
On confond deux choses pour moi. Alors déjà, je vais dire, effectivement, la moyenne de buts, elle a bien baissé, puisque l'an dernier, je crois qu'elle était à 3,04. Enfin, je crois, mais en fait, je lis mes notes, donc je suis sûr. Elle était à 3,04 l'an passé, et cette année, elle a 2,49. Donc effectivement, ça a baissé. Il y a moins de spectacles, c'est sûr. Il y a eu combien? 12 et 13 buts, je crois, lors des deux dernières journées.
25 buts en deux journées.
Donc, au niveau du spectacle, oui, on est très, très, très mal servi. Est-ce que ça veut dire que la Ligue 1 est plus nulle? Non, parce qu'il ne faut pas confondre le spectacle et le niveau des équipes. Je vais prendre deux exemples et deux arguments qui vont d'ailleurs contredire le fait que la Ligue 1 est plus nulle aujourd'hui qu'hier. La Coupe d'Europe, ça pour le coup, c'est un étalon objectif, les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. Je ne sais pas si la France avait déjà aussi bien démarré une campagne européenne. Aujourd'hui, tous les clubs, après 4 journées, tous les clubs, sauf Lens, mais ça se joue au goal average, tous les clubs sont en position de se qualifier. Donc la France est en position de faire un grand chelem. La France a battu des équipes comme Arsenal, comme Liverpool, et ce n'est pas le PSG qui l'a fait. On a des résultats européens qui sont au-delà de nos espérances. Ça veut dire quelque part que ces équipes françaises ont une valeur. Alors oui, on se fait chier pour être vulgaire en Ligue 1, malgré tout, ça gagne en Europe. Donc je ne sais pas si c'est plus nul. Même chose, on va prendre l'OGC Nice. L'OGC Nice ne marque pas un but. L'OGC Nice... Et effectivement, chiant comme la pluie. Les matchs de l'OGC Nice, c'est une vraie purge. Mais l'OGC Nice fait l'un des meilleurs débuts de saison de son histoire, est deuxième, est tout près de Paris, et propose un jeu, s'il n'est pas spectaculaire, il est efficace. Et aujourd'hui, Nice a retricoté le projet Ineos, et au moins est dans les clous des ambitions de son actionnaire, ce qui n'était pas le cas quand c'était... un tout petit peu plus ouvert, quand ça joue mieux au football. Donc ça ne veut pas dire que quand tu jouais mieux au football, d'ailleurs non, on ne jouait pas forcément mieux au football, mais était plus ouvert, plus tourné vers l'offensif. Il ne faut pas confondre le spectacle et le niveau, encore une fois. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je ne sais pas si la Ligue 1 est plus nulle qu'hier. Elle est plus fermée, elle est moins spectaculaire, oui. Est-ce qu'elle est plus nulle? Je ne suis pas sûr.
Bon, la question que je me poserais, c'est est-ce qu'elle était vraiment meilleure l'année dernière?
Oui.
Moi, je suis le premier. Je trouve que, en fait, on est dans la culture de l'instant. Deux journées à 12 et 13 buts, ça ne va plus, ça ne marque plus, les attaquants ne travaillent pas assez, en gros. Okay. Ça se trouve, dans deux journées, il y a 40 buts par journée, et on dira, ah ouais, ils sont revenus. Bon. En fait, tirer des conclusions là-dessus, c'est stupide. Et surtout, essayer de trouver des réponses. Moi, j'ai vu, après les deux journées à 12 et 13 buts, j'ai lu quelque part que peut-être que les conditions météo y étaient pour quelque chose. Sauf que le même jour, et au moment où je lisais ça, je vous assure que c'est vrai, j'étais en train de regarder Chelsea-Manchester City, où il pleuvait comme pas possible à Londres, ça finit à 4-4 et il y a eu du spectacle. En fait, comme tu l'as dit, on confond le spectacle, les buts et la qualité d'un championnat.
La Première Ligue marque moins de buts qu'en Allemagne, est-ce que c'est un plus mauvais championnat ?
Et je vais te dire autre chose, si la qualité d'un championnat se voyait au nombre de buts marqués, la Serie A des années 90 n'aurait jamais été le meilleur championnat du monde. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, en Serie A, on marque beaucoup plus de buts que dans les années 90. C'est un championnat qui est devenu plus spectaculaire. Est-il plus fort ? Non, la réponse est non. Et était-il moins agréable à regarder ? Bah non, voilà. Ça dépend ce qu'on cherche, voilà. Si on veut football, un football Instagram et un football où il y a des buts et du spectacle,
là je te retrouve.
Oui, c'est mieux. Mais ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Après, pour en venir à la Ligue 1, moi je suis désolé, l'année dernière, l'enflammade autour de la Ligue 1 et du jeu, oui, merci Lens. Voilà, Lens c'était une super équipe, c'était très bien. Le reste, j'ai pas vu. Le champion, c'est un des pires titres du PSG. L'OM, il y avait des frissons parce qu'il y avait du rythme. Mais bon, à l'arrivée, l'OM, ça fait troisième et il y a de l'inconstance. Ouais. En fait, voilà, on mélange un peu la spectacularité et le niveau. La Ligue 1, ça reste un championnat de, je dirais, de tiers 2. C'est-à-dire que vous avez de très gros championnats devant et derrière, vous êtes sur un championnat moyen, moyen plus. Et après, la tarte à la crème de dire... Ah bah oui, Farioli, il arrive, ouais, bon, on veut de la possession. Les mecs, ils veulent de la possession, être vertical, aller vite vers le but. Mais moi, je rêve de l'entraîneur qui arrive, qui dise, écoutez, avec moi, on va se faire chier, mais on va avoir des résultats. Voilà. Bah, il n'y en a aucun qui dira ça, ça ne se vend pas. Alors, le renouveau des techniciens, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Et je pense que la vérité, elle est pas là, elle n'est pas à 12 et 13 buts. La vérité, elle est entre les deux. C'est juste un championnat moyen avec des joueurs souvent moyens. C'est normal. C'est lié aussi aux moyens financiers. Et même s'il y a eu beaucoup de dépenses avec CVC, ça reste un championnat assez moyen. Voilà, je pense qu'il y aura des jours meilleurs. Là, il se trouve qu'il n'y a pas eu de but. C'est comme ça.
Voilà, moi j'identifie un problème. C'est que les deux grosses locomotives derrière le Paris Saint-Germain ne sont pas là. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est avoir une constance au niveau des outsiders, et on n'en a pas. C'est-à-dire que Nice, Monaco cette année avaient fait des mauvaises, voire très mauvaises saisons l'année dernière, et qu'on attend qui ? On attend, tu as parlé de moyens financiers, mais on attend effectivement Marseille et Lyon, qui sont dans des saisons pour l'instant trous noirs. Alors Lyon plus que Marseille, mais c'est vraiment des saisons catastrophiques jusqu'ici. Lens, qui était deuxième l'an passé, a du mal à exister. Rennes, qui était ambitieux, a du mal à exister. Et donc, c'est plus cette inconstance, moi, qui fait qu'on a du mal à identifier des forces en présence qui soient constantes. Et donc, ça détériore pour moi, effectivement, la vision qu'on a de cette Ligue 1. Et derrière le PSG, c'est un peu le désert. Oui. Voilà, moi, c'est ça que... Mais... pour moi, le spectacle n'a rien à voir là-dedans.
Et tu as raison, parce que en fait, pour avoir de la constance et une hausse de niveau, alors que ce soit l'OM ou un autre ou l'OL, en fait, faut entamer un cercle vertueux. Sauf qu'on le voit avec Lens. Alors Lens, en Coupe d'Europe, tu as dit, ça le fait. En championnat, c'est moins bien. Mais le succès est généralement... Je ne vais pas dire que ça tue ces équipes-là, mais ça ne les aide pas à avancer, puisque le succès, ça veut dire que leurs joueurs deviennent bankable. Et comme ils ont besoin d'argent, ils vendent leurs joueurs. Et ça, c'est vieux, j'allais dire vieux comme la Ligue 1 depuis 25 ans. L'OM, à un moment, on s'est dit, ils vont démarrer ce cercle vertueux, se dire, bon, bah, y a une saison qui marche bien, donc on bâtit là-dessus pour construire la suite. Sauf qu'à l'OM, tous les ans, ça redémarre parce que les entraîneurs s'en vont, parce que les joueurs sont changés. Et là, je pense que le mercato d'hiver ne va rien arranger, puisque l'OM ne sera pas à la position qu'il faudrait qu'il soit. Donc en gros, c'est difficile d'avoir une constance au plus haut niveau. Je dirais presque plus que d'avoir des Farioli, des Wistil, même si c'est très bien de les avoir pour les équipes dans lesquelles ils sont, parce que justement, eux, surperforme avec ces équipes-là, c'est que les locomotives, justement, telles que l'Olympique de Marseille, bah, aient la stabilité de passer... Que ce ne soit plus une anomalie pour l'OM de passer 4 années de suite sur le podium. Voilà.
Exactement.
C'est ça le problème. C'est qu'au bout de 2 ans, on se dit ouais, « c'est super, ça faisait 10 ans qu'il ne l'avait pas fait bah ». Oui, mais le problème, c'est que ça devrait être la logique. Et à partir du moment où il n'y a pas cette logique, cette continuité, ça ne fonctionne pas. Le PSG, évidemment, est à part parce que la continuité, de toute façon, ils l'auront parce qu'ils ont les moyens de s'acheter qu'ils veulent.
Même quand ils n'ont pas de continuité, c'est-à-dire qu'ils changent d'entraîneur et d'effectif, ils ont la continuité parce que vu qu'ils prennent les meilleurs…
Bah, et en fait, que le PSG soit champion de France l'année dernière… Pour le championnat, c'est presque catastrophique parce qu'ils sont dans un fauteuil en faisant une deuxième partie de saison
pourrie.
Voilà. Alors ça se termine, il y a un point de Lens et symboliquement, c'est bien parce que ça montre que Lens n'était pas loin. Mais au fond, ça donne l'idée d'un championnat qui n'est pas compétitif, puisque une équipe qui surperforme n'arrive pas à aller devant une équipe qui est vraiment qui sous-performe. Donc voilà, moi je pense que, encore une fois, 12 et 13 buts, c'est pas normal. Il y a autre chose aussi, il y a beaucoup moins de pénaltys sifflés aussi. Mm-hmm. C'est aussi, il faut penser à ça quand les chiffres, parce que on en parlera aussi un peu plus tard dans le troisième sujet. C'est pas exactement le sujet, mais c'est un peu ça. On aime bien que les statistiques gonflent. Alors quand vous sifflez des pénaltys pour toutes les mains dans la surface et tout ça, vous dites ah, oh, il y a beaucoup de buts. Ah ouais, sauf qu'il y a 2-3 buts qui sont un peu artificiels.
Non mais c'est sûr qu'il y a des attaquants qui sont en difficulté, que... mais je suis pas sûr moi que ça dise quelque chose du niveau des équipes françaises en tout cas. On passe au troisième sujet, Maxime. On va passer aux blessures nombreuses qui sont en train de décimer les championnats européens et les sélections pas qu'européennes d'ailleurs. Gavi s'est blessé et aura du mal à jouer avec l'Espagne à l'Euro. Mmh. Eduardo Camavinga s'est blessé, on ne le reverra pas en 2023. Vinicius s'est blessé au muscle fémoral. Erling Haaland, petit pépin. Zahir Emery, petit pépin. Marquinhos, petit pépin. Cet été, Courtois s'était fait les croisés. Fofana s'était fait les croisés. Il y en a beaucoup. Bah, Neymar aussi hein, s'est fait les croisés depuis. Caio Henrique, Perisic, Militao. Donc, ça commence à faire beaucoup. C'est même énorme. Et on va se poser la question de savoir pourquoi autant de blessés. Pourquoi une telle avalanche de blessures. Alors, On va s'appuyer sur des études qui ont été menées soit par la FIF Pro, soit par des compagnies d'assurance qui nous disent qu'il y a plus 15% de blessures en Première Ligue, par exemple, que sur les 4 saisons précédentes, qu'il y a 200% de blessures en plus au mollet, par exemple. Hein, ça, c'est des chiffres qui sont assez forts. Maxime, comment on l'explique ?
Alors, des blessures, il y en a toujours eu. C'est-à-dire que des croisés, des coups du sort, etc., il y en a toujours eu. Or, finalement, même si le lien est difficile à prouver, on arrive dans une phase où on joue trop au foot, tout simplement. Il y a trop de matchs, trop de choses pour des joueurs de plus en plus jeunes aussi, à qui on demande toujours plus et toujours tout au long de l'année. C'est marrant parce que ce qui se passe là, ça me fait revenir un peu plus de 20 ans en arrière à la Coupe du Monde 2002. C'est vraiment, je trouve, cette Coupe du Monde-là est une bascule. L'équipe de France, Pires, qui fait la saison de sa vie, il se fait les croisés au mois de mars. Je dirais que là, c'est un peu là. Non, pas là. Parce que les croisés, ça peut être aussi la faute à pas de chance. Mais il y avait quelque chose de symbolique là-dedans. Zidane qui se blesse avant la Coupe du Monde, on le sait. Il jouera juste le Danemark, ça flingue l'équipe de France. Et lui avait fait une saison pleine. Et il avait joué 57 matchs avant de jouer le Danemark, son seul match de Coupe du Monde. Et à l'époque, 57 matchs, on se disait, moi je me souviens très bien, mais c'est énorme. Là, c'est on arrive à la limite. Les Bleus sont sortis au premier tour. Ils ont trop joué. Et en plus, c'est une saison particulière puisque la Coupe du Monde avait commencé le 30 mai à cause de la mousson. Elle avait été avancée. Très, très peu de préparation. Ce qu'on a aujourd'hui, finalement, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait, c'était presque une pré-répétition de ce qu'on trouve aujourd'hui avec une Coupe des Confédérations qui avait été jouée l'été avant. Donc, ça veut dire que certains Bleus, pas tous, mais avaient quasiment pas arrêté. Et la Coupe du Monde, alors la finale, c'est Brésil-Allemagne, donc vous allez dire les favoris là. Non, sauf que c'est presque l'anomalie. Tous les favoris s'étaient plantés avant, l'Italie en 8e, l'Argentine et la France, les deux les immenses favoris, premier tour. Et on s'était dit, c'est pas bon ça. Voilà, il y a un truc qui va pas. Sauf que aujourd'hui, ces saisons-là, elles paraissent presque courtes par rapport à ce qu'on a. Aujourd'hui, les saisons, tu as dit, Gavi, c'est combien ?
Pedri. Pedri, il y a 2 ans, a fait une saison à 73 matchs.
73 matchs, vous vous rendez compte
cette
quand même
saison, Modric fait 66 matchs.
Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on n'accepte plus le repos, c'est le toujours plus. Ça a été l'occasion, pendant cette trêve internationale, de parler du virus FIFA. Le virus FIFA, c'est pareil, les Espagnols en parlent depuis 25 ans. Dès qu'il y a un joueur qui se blesse en sélection, le Real ou le Barça ne sont pas contents. Sauf qu'aujourd'hui, les clubs ne l'acceptent plus. Alors même s'ils sont indemnisés, parce qu'ils payent leurs joueurs de plus en plus cher, parce qu'ils ont besoin de leurs joueurs de plus en plus, ils ne peuvent pas accepter que les joueurs se blesse en sélection. Et même, je pense que demain, ils auraient le droit, ils diraient aux joueurs, tu vas plus en sélection, c'est terminé. Sauf que c'est l'erreur, et là où ils sont pas très, très nets les clubs, c'est qu'un Mbappé par exemple, le PSG c'est pas plein, mais un Mbappé qui met un triplé en finale de Coupe du Monde, ça sert aux joueurs, mais ça va pas mal servir au PSG et à la notoriété du club. Donc il y a une hypocrisie, et comme les clubs prennent de plus en plus de place, on le verra l'année prochaine avec la Ligue des Champions, avec des matchs en poule de plus, bah, les équipes nationales, elles se retrouvent complètement serrées, complètement engoncées, et pour pouvoir exister, eh bah, l'UEFA et la FIFA leur rajoutent des matchs aussi. En fait, c'est un cercle vicieux complet. Avant, on ne jouait pas le mois de juin impair. Maintenant, on joue. On trouve l'année dernière, il y a eu 4 matchs de l'équipe de France pour la Ligue des Nations.
Une
compète qui ne sert à rien.
Ouais, qui n'existait pas.
Et en fait, et j'ai recherché, parce que moi, j'ai connu une époque où les matchs internationaux, c'était un match par rassemblement. Et en fait, c'est depuis 2004-2005 qu'on est passé à 2 matchs. Parce que justement, comme la Ligue des Champions, les clubs prenaient de plus en plus de place, les équipes nationales doivent exister. Il y a un business derrière. Et en fait, là, tout simplement, il y a trop de matchs. Et même moi, d'un point de vue, je ne parle pas de journaliste, de fan de foot, d'amoureux du foot, moi, j'en ai marre, il y en a trop. C'est juste, je râle la gueule, en fait.
Camille Glick a joué la Coupe du Monde. Il s'est fait éliminer avec la Pologne par l'équipe de France. Oui. 4 jours plus tard.
C'est vrai.
4 jours plus tard, il jouait avec son club. Ouais. 4 jours plus tard. Raphaël Varane, 8 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait, Raphaël Varane? À 29 ans. Raphaël Varane, je rappelle juste, hein, champion du monde, énormément de sélections.
93, je crois.
93 sélections, une star de l'équipe de France, un membre important de l'équipe de France pour Didier Deschamps, peut-être le meilleur défenseur bleu depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à 29 ans? Il a dit j'arrête, il y a trop de matchs, je peux pas. C'était un joueur sujet aux blessures, très exposé aux blessures, qui se blesse souvent. Il a pris quelle décision? Et ben j'arrête. Bah oui, parce qu'il me faut des plages de récupération plus importantes, bah pour pouvoir être moins blessé, avoir une carrière plus linéaire. Voilà. Il a arrêté à 29 ans. Donc ce sont des cas spécifiques qui doivent faire réfléchir la FIFA, l'UEFA, parce que sinon on va aller droit dans le mur. Alors cette trêve internationale, elle est caricaturale parce qu'il y a eu effectivement énormément de blessés. Tu le disais, il y a 20 ans, 50 matchs, c'était énorme. Aujourd'hui, la norme, c'est 60 matchs. Les joueurs du Real Madrid, tu prends Tchouaméni, Modric, ont joué plus de 60 matchs l'année dernière.
Avec les tournées aussi.
Exactement. Tu joues la Super Coupe d'Europe, tu fais 4... La Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe d'Espagne, 4 matchs en Arabie Saoudite. Donc là, non seulement tu rajoutes des matchs, tu rajoutes des trajets, donc des temps de récupération qui sont plus faibles. Hier, on a interrogé un ancien médecin de l'équipe de France qui nous disait, pour que le muscle récupère bien, il faut... une petite semaine, 5-6 jours minimum. Mais aujourd'hui, quel grand joueur, donc grand joueur, je parle d'international, ne joue qu'un match par semaine? Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Dernière chose, les matchs, par rapport à il y a 20 ans, sont beaucoup plus intenses. Mais là, il suffit de regarder, enfin, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Il y a plus d'efforts à haute intensité, ça va plus vite. Les matchs durent plus longtemps depuis la Coupe du Monde. On a rajouté du temps additionnel. Aujourd'hui, c'est pas rare d'avoir 7, 8, 9, 10, 11, 12 minutes de temps additionnel. Donc oui, il y a plus de changements, sauf que les stars, tu les fais pas sortir.
Ouais, ils sortent plus.
Mbappé, il sort pas. Donc c'est comme ça. Avant, les mecs sortaient. Il y a 20 ans, ils sortaient parce que voilà, on faisait ce choix-là. Aujourd'hui, ils sortent plus. Donc ils jouent plus de matchs, des matchs plus intenses, des matchs qui durent plus longtemps. La conséquence, c'est quoi? Bah, elle est évidente, la conséquence. La conséquence, c'est qu'il y a plus de blessés. Donc, il est temps, sans doute, de réfléchir à autre chose. Je n'y crois absolument pas, parce que tout ce qui guide tous ces gens-là, on le sait, c'est le fric. Pour faire du fric, qu'est-ce qu'il faut? Bah, faut faire plus de matchs. Et donc, il faut multiplier les compétitions. On l'a dit, l'année prochaine, il y aura 2 matchs de plus en poule de Ligue des Champions. 2 matchs de plus. On rajoute 2 dates. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. Donc, on ne comprend pas, on ne comprend rien. Tchouaméni tire la sonnette d'alarme, on l'écoute pas. Griezmann a encore tiré la sonnette d'alarme, on ne l'écoute pas. Voilà, je pense qu'il faut trancher dans le vif, mais bon, là, je pense qu'on pisse dans un violon.
Ouais, j'ai fait un petit calcul pendant que tu parlais. Pedri, c'est un match tous les 5 jours sur un an. Et si tu enlèves 2 mois de vacances, mais il ne les a pas, c'est un match tous les 4 jours. Déjà, un match tous les 5 jours, c'est délirant. Après, c'est vrai que tu dis on attend la FIFA, etc. Mais ils ne bougeront pas la FIFA. Non. On se faisait la réflexion ce midi, il y avait Argentine-Brésil, Coupe du Monde des moins de 17 ans. C'est marketé comme une Coupe du Monde. Donc déjà, gamins, on leur demande, ils jouent avec des maillots floqués. Hé les gars, c'est des matchs de moins de 17 ans. La moitié ne sera sûrement pas professionnelle, ne fera pas une grande carrière. Et là, on markete tout. Et donc, on donne aux joueurs l'exposition qu'ils ne devraient pas avoir encore si c'était sain. C'est-à-dire qu'on les laisserait grandir. Là, on va se dire, ah, lui, il a été bon, il a moins de 16 ans, c'est pas grave, il est prêt, on va le faire jouer, on le fait jouer. Et après, on se retrouve à 20 ans à jouer 70 matchs. Donc, il n'y a rien qui va. Et en plus, le football, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut exister. Comment exister? Faut occuper tout le terrain médiatique.
Toute l'année.
Sur les réseaux sociaux, sur Insta, etc. Donc, on fait des belles images parce qu'il faut de plus en plus de trucs. Et le football est aussi en concurrence avec les autres sports. C'est-à-dire que le football est en concurrence avec le tennis, avec le cyclisme, c'est ce qu'on veut. Et c'est une lutte, et même, je dirais, avec les nouveaux modes de divertissement. C'est-à-dire oui. que vous avez le choix à regarder Netflix un soir, mais le football ou la FIFA n'a pas intérêt à ce que vous gagnez Netflix, vous gagnez ce que vous voulez, parce qu'il faut regarder du football, parce que c'est une entreprise, voilà, tout simplement. Et donc, occuper le terrain, c'est inonder le tout, et c'est que les autres sports font un peu pareil. Le cyclisme, récemment, cette semaine, on a vu qu'il parlait de mettre Paris-Roubaix en octobre. En fait, le but du cyclisme et de l'UCI, c'est d'avoir du cyclisme de janvier jusqu'à décembre. Et ça, c'est pareil, on est toujours dans le toujours plus. Regardez le tennis, les matchs en night session, Sinner au tournoi de Paris récemment, au Rolex Paris Master, qui déclare forfait parce qu'il a terminé trop tard la veille. Et à un moment, en plus, les joueurs en sont conscients, tu l'as dit, Sinner en est conscient, Griezmann au football en est conscient, Tchouaméni en est conscient, Varane est conscient. À un moment, je crois que c'est eux qui ont le pouvoir. Il faudrait qu'ils disent stop.
Ouais,
c'est pas facile parce que des footballeurs, il y en a des dizaines de milliers dans le monde. Mais à un moment, s'il y a claque, ça jouera. Ou que des gens, on aimerait entendre des joueurs qui disent, comme tu disais Mbappé, qui disent là, stop, c'est trop. Mais je pense qu'à Mbappé, lui, ça lui va très bien de jouer autant.
Et ça lui permet de faire des stats.
Ça lui permet de faire. Voilà, non, mais c'est ça. Et ça nourrit
ça
toujours la bête.
Et de nourrir,
voilà.
Ouais, bien sûr.
Et comme ça, et comme il aura son petit badge du meilleur buteur de Ligue 1 ce soir de la LFP.
Ça t'a pas plus.
Non, ça m'énerve parce qu'en fait, on va vers l'individualisation du sport encore plus. Et on dit quoi aux joueurs? On leur dit, bah, restez sur le terrain, faites des stats pour vous. Et on va vous récompenser individuellement. Et en fait, tout ça est lié. On leur demande toujours plus individuellement. Et à l'arrivée, l'image qu'on a derrière, c'est des joueurs qui se pètent et qu'on ne voit pas sur le terrain pendant des années. Pendant des mois, pardon.
Pour qu'on se rende compte de l'évolution qui va dans le mauvais sens, je vais prendre trois exemples de trois joueurs. Mbappé, Pedri et donc Vinicius qui ont joué très très jeune, très très tôt. Mbappé, à l'âge qu'il a aujourd'hui, a déjà joué 37% de minutes en plus que Thierry Henry au même âge. Pedri a joué 20% de plus que Xavi au même âge. Et Vinicius a déjà joué plus de 113 matchs complets que Ronaldinho au même âge. Et Ronaldinho, Henry et Xavi, ils sont sortis jeunes aussi. Hein. Ouais. On les a mis très vite sur le devant de la scène, sauf qu'on les protégeait plus. Aujourd'hui, on ne les protège plus, ces mecs-là. Ce sont déjà des joueurs essentiels. On ne parle pas d'âge, ok, on ne parle pas d'âge. Donc, on te fait jouer beaucoup plus. Et on arrive à ce qui s'est passé à Gavi en début de semaine dernière. Donc, on est dans une espèce de course à l'échalote.
Ouais, et j'ajouterai une dernière chose, parce qu'on n'est pas exempt de reproches.
Et alors, je cite juste, c'est une étude de la FIFPro, hein, donc du syndicat des joueurs.
Et on n'est pas exempt de tout reproche, parce que moi, toutes les semaines, chez nous ou ailleurs, je découvre que le fameux Barça a une nouvelle pépite. Tous les jours, ils sortent un mec de 16 ans qui va être le nouveau Messi. Voilà. Et donc, nous aussi, on participe à ça, à vendre des joueurs qui ne devraient pas être vendus comme tels. Et on crée une attente autour d'eux et sans doute une pression. Et ils jouent de plus en plus, etc. En fait, c'est un cercle vicieux.
Donc, tu es en train de me dire que c'est la faute à toi si Gavi s'est fait les croisés, Maxime.
J'ai pas écrit sur Gavi, donc. Mais c'est en fait c'est un microcosme, mais c'est je trouve plus le mot là, c'est la fin de l'émission.
Ouais, il est fatigué Maxime.
Vous avez compris. Qui se nourrit
serpent
lui-même.
Qui se mord.
Non. Le
cercle vicieux.
Une atmosphère, tu vois ce que je veux dire, pas un microcosme, mais un écosystème. Voilà.
Ok.
Allez, bon, écosystème. Là, je suis vraiment fatigué. Ouais. Un écosystème en fait qui va droit dans le mur parce que c'est le toujours plus et sans être. Vous allez dire, certains qui nous écoutent, qu'on est des vieux cons.
Toi, oui.
Non. Encore une fois, c'est comme la Coupe du Monde à 48. Elle était très bien à 32. Pourquoi on y touche?
Fric.
Et voilà, c'est ça, c'est tout. Et de croire qu'on met plus. Regardez la F1, 24 Grands Prix, c'est beaucoup trop.
Fric.
20, 18, ça suffit, ça sera aussi bien. Mais sauf qu'il faut faire du fric. Voilà, c'est un peu désolant, mais au pire, ça nous fait parler de.
On est la dernière poche de résistance.
Ouais, et encore, on résiste pas. En vrai, on résiste pas assez.
On résiste pas.
Parce qu'on milite pas, il faudrait être militant là-dessus. Avoir les joueurs, leur dire, les gars, coupez, dites stop.
Exactement. Et ben nous, ça sera toujours plus de Stream Team, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine, Maxime, je l'espère.
Nous, toujours une par semaine.
Une par semaine, parce que nous, ça bouge pas.
Sauf
que Maxime.
Ouais.
Vous avez tous encore vos grands-parents, vous savez qu'il ne faut pas chambouler les habitudes. Maxime, si on lui fout 2 stream teams par semaine, on le perd, il perd la boule. Donc Maxime, c'est vendredi, on arrive à 11h, petit café.
Ah non, je suis là avant, tu rigoles,
de quoi on parle les enfants? Donc avec Adrien, qu'on remercie, hein, on cherche les sujets, on lui dit « Maxime, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des blessures. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bah Gavi, c'est qui Gavi? Moi c'est un petit jeune du Barça, il s'est blessé, d'accord. » Voilà, et Adrien lui écrit ses textes, machin, voilà.
J'ai l'impression que t'as trop regardé le documentaire sur Ingrid Betancourt.
Sur les Betancourt, c'est vrai.
Pas Ingrid d'ailleurs, Lignane Betancourt, c'est pas la même.
Donc voilà, si on passe à 2 par semaine, je pense qu'il explose en vol, Maxime. Déjà que une, c'est compliqué.
Non mais ce serait toujours plus aussi.
Ce serait toujours plus.
Toujours plus d'audience, parce que ça marche en même temps.
Bah oui, bien sûr.
Si on en filme tous les jours, les chiffres de la vidéo explosent aussi.
Ouais.
Mais nous, on préfère la qualité.
Exactement.
Toujours.
Parce qu'on pourrait, on est bon au fond.
On pourrait, on l'a vu, on l'a déjà
fait. On pourrait en faire même 3 par jour.
3 par jour, mais on pourrait rester 2 heures encore.
On pourrait rester 2 heures.
Parler n'importe quoi, tu me sors un sujet, hop, je fais 10 minutes.
Hein. Allez, vas-y, je te sors un sujet. Allez, vas-y, Stade Brestois, vas-y, Maxime, 10 minutes.
Je te parlais de Roberto Cabanas.
Non, mais Stade Brestois aujourd'hui, tu vois.
Bah, c'est très bien.
Del Castillo.
Voilà. J'ai l'impression de parler de MPG. Là.
Bon, on va vous laisser. Merci, Adrien.
Merci Adrien.
À la réalisation, à la production, à la réalisation.
À la réal, à la,
voilà. La mise en image. C'est...
Mais j'ai l'impression qu'il passe quand même. Dans la semaine, c'est un de ces moments qu'il aime bien. Tu vois, je le vois parce que je le
c'est
vois.
C'est sa petite récréation.
Il est à côté de nous, je vois qu'il écoute, je vois qu'il opine du chef, ouais. Ou des fois non.
Je sens qu'il a envie de parler, qu'il a envie de venir, mais il est venu quelques fois quand même.
Ouais, c'est vrai.
C'était pas les meilleurs. Merci à Quentin Guichard. Quentin Guichard au visuel. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, Maxime, pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao.
Salut.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.